Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, dans Musique traditionnelle, j'ai l'honneur d'accueillir sur les ondes et depuis la Bretagne, Katel Cloirec. Bonjour, Katel.
Bonjour.
Et nous avons à la technique toujours Armand Gall depuis Radio Présence Figeac. Nous allons commencer tout de suite par un morceau et puis nous commencerons tout de suite à parler avec Katel. Une magnifique gavotte interprétée par Baliskis. Baliskis, Katel, c'est votre groupe, enfin c'est votre dernier CD. Et je vous laisse présenter le morceau, ainsi que les musiciens, vous le ferez beaucoup mieux que moi.
D'accord, bah merci. Baliskis, oui, donc c'est un groupe avec Anne-Cécile Poyard au chant, Grégoire Pluet à l'accordéon et moi-même au chant. Donc avec Anne-Cécile, on chante dans le style qu'on retrouve en Bretagne qui s'appelle le canne à discante. C'est un chant à répondre avec du tuilage. On chante essentiellement en breton, mais un petit peu en français aussi, parce que c'est du chant à danser, du chant à écouter. C'est vrai que le répertoire breton se fait par chez nous, se fait majoritairement en breton, mais il y a aussi des choses qui sont écrites en français et plus loin, bon, il y a du gallo aussi, mais ce n'est pas une langue qu'on pratique, Cécile et moi.
Donc, oui, vous êtes toujours dans les monts d'Arrée. Vous avez dit, oui. Alors les monts d'Arrée, pour que je situe à nos chers compatriotes occitans, n'est-ce pas ? C'est la fin de la Bretagne. On est bientôt dans la mer. Ça, c'est
voilà,
ce sont des lumineuses de 250 mètres ou 60. Et ensuite, on se retrouve face aux États-Unis, c'est ça ?
Voilà, on est dans le Finistère, donc Penarbé dans breton, hein, le bout de la terre. Alors Grégoire, il habite à Brest, donc il est vachement plus près de la mer que nous. Nous, on est quand même à 40 minutes de la mer. Voilà, mais on est dans le centre, juste centre nord Bretagne. Voilà, un endroit qui s'appelle voilà les Monts d'Arrée. Donc on habite pas loin de Huelgoat. Et justement la gavotte qu'on vient d'entendre, c'est une gavotte qui a été écrite par Valentine Colletter, qui était une chanteuse surtout, mais de Huelgoat, mais elle a écrit aussi une chanson et elle a écrit cette chanson à Gorventen qu'on chante sur de la gavotte et ça parlait de la tempête de 87.
Alors oui, merci de préciser de quoi ça parlait parce que c'est une très belle langue, mais j'avoue que moi j'ai rien compris. Je ne sais pas si vous avez compris Armand. Depuis
non, pas vraiment.
Figeac. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi parle ce texte ? Déjà, c'est intéressant parce que c'est un texte écrit par une femme, je suppose, et je sais que vous l'avez fait exprès. Mais en plus, de quoi peut bien parler ce texte-là ?
Alors, juste cette chanson, c'est une chanson qu'on n'a pas choisie parce que c'est écrit par une femme. On l'a choisie parce que c'est un texte qui est vraiment devenu très populaire par chez nous. Tous les autres textes sur notre CD, on les a plutôt choisis parce que c'était des femmes qui les avaient écrites, mais celle-ci fait exception, je crois. Donc, ça raconte vraiment la destruction des monts d'Arrée et de la Basse-Bretagne et de Belgoat après la tempête de 87. Donc, Valentine décrit la peur dans la nuit, le vent qui souffle, les vitres qui tremblent, les fenêtres qui vibrent, et le lendemain matin, sortir de chez elle et voir la destruction, les arbres sur les routes, les clochers tombés, la forêt détruite. Et elle termine avec une très, très jolie phrase. Elle dit « Je ne peux chanter et pleurer en même temps. Quand la Basse-Bretagne aura retrouvé sa beauté, nous serons morts depuis longtemps. » Et donc, ça faisait un peu écho à la tempête qu'on a eue au mois de novembre dernier, parce que c'est vrai que ici dans le Finistère et à Belgoat, on a été vraiment beaucoup touchés par cette tempête et ça nous a tous laissés attristés. Déjà, moi, dans mon jardin, il y a peut-être, je ne sais pas combien d'arbres sont tombés, mais... je ne sais pas, une bonne vingtaine. La forêt de Belgoat, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés aussi. Sur le lieu où je fais mes balades comptées pour les enfants, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés jusqu'à ne plus reconnaître en fait, l'endroit qu'on connaît si bien. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que cette chanson est importante pour nous.
D'accord, donc c'est une chanson qui raconte une destruction en fait, et puis une destruction longue, puisque vous parlez d'arbres, et effectivement les arbres, ils ne repoussent pas comme ça du jour au lendemain, et cette destruction de son chez-soi, de son jardin, qu'on aime tant. Alors j'en profite pour rebondir, vous êtes en train de dire que vous faites des balades comptées avec les enfants, alors qu'est-ce que c'est, et dans quel cadre?
Alors, je travaille depuis, ça va faire presque 20 ans, pour l'association ADES. ADES, c'est une association basée à Bottmer, dans les Monts d'Arrée. Et l'association organise des randonnées comptées et des randonnées chantées. Alors, au départ, j'ai été invitée pour animer des balades chantées pour les tout-petits. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des balades contées. Donc, depuis 4-5 ans, je commence à raconter des histoires. Alors, c'est pas un exercice très facile pour moi parce que, comme vous pouvez l'entendre, le français, ce n'est pas ma langue maternelle. C'est pas la langue que je maîtrise le mieux. Mais petit à petit, je commence à raconter... des histoires et m'approprier ce répertoire.
Ouais. C'est un très bon exercice justement pour une langue qui n'est pas maternelle que de raconter et donc du coup de faire attention à chaque mot, qui est aussi important pour nous. Je dirais à partir du moment où on a une langue maternelle, il me semble qu'on doit y faire attention quand on veut conter quelque chose. Mais du coup, ces contes, ce sont des collectages ou ce sont des choses que vous inventez, vous ?
Alors, c'est les deux. Je prends des contes traditionnels que je transforme un petit peu. Je raconte des contes traditionnels et j'en écris... J'ai écrit complètement. Non, c'est toujours inspiré de quelque chose. C'est toujours inspiré d'un conte... soit je raconte comme il était raconté avant, ou je le transforme un petit peu parce que les temps changent, on peut pas toujours ça colle plus en fait avec ce que veulent entendre les enfants ou ce qu'ils peuvent comprendre ou la société dans laquelle on vit. Il y a des choses qu'on ne raconte plus aujourd'hui, sauf que c'est pas ça se dit pas ou ça se fait pas ou j'emmène le conte dans un autre sens pour qu'on réfléchisse à la question, justement, à des questions. Voilà. Je voulais juste revenir sur la question de langue maternelle. Le français, en fait, c'est ma langue maternelle parce que c'est ma mère qui me parlait français. Mais ma mère m'a élevée au Pays de Galles. Et c'est pour ça que ce n'est pas ma langue maternelle parce qu'en fait, c'est l'anglais qui a pris le dessus sur le français.
Mais c'était compte, une bonne définition. On est d'accord.
Voilà.
Alors, moi, je voudrais revenir un petit peu au conte parce que c'est intéressant ce que vous dites. C'est que vous les modifiez parce que ces contes, c'est des contes traditionnels, mais en fait, un conte, il est dans un contexte. J'imagine que, enfin, voilà, on connaît les contes qui ont été modifiés par Walt Disney, on connaît certains contes de Grimm qui ont été modifiés dans certains livres. Et je pense que c'est important dans son contexte et dans un contexte social. Et donc, j'ai entendu parler, on m'a dit qu'effectivement, vous faites beaucoup de travail de récupération de textes qu'on appelle le collectage, mais vous n'hésitez pas à le transformer pour l'adapter justement à la société d'aujourd'hui. Est-ce que je me trompe?
Oui. Oui, alors je fais ça, mais que ça soit clair, ça ne me gêne pas en fait, les versions. Les versions qu'il pouvait avoir avant. C'est juste que des fois, je trouve que c'est pas adapté ou c'est plus rigolo de chanter autre chose. Je pense que c'est important de savoir quelle est la vraie version aussi et de savoir que des choses, telle ou telle chose se passait. Par exemple, on peut prendre l'exemple... De la chanson qu'on a retravaillée là avec ma mère justement pour le disque de Baliskis en anglais et de Bonnet d'Auru. Donc c'est une chanson qui parle des Anglais qui venaient sur la côte bretonne pour voler des filles. Et donc dans la version qu'on entend un petit peu partout, les Anglais prennent la jeune fille, ils l'emmènent sur le bateau. Et il lui dit qu'elle va perdre son honneur et tout ça. Bon, c'est tout ce que ça veut dire.
Oui.
Ça se faisait. Et donc, c'est bien que ça soit dit dans les chansons parce qu'on se rend compte quand même de comment ont été traitées les femmes et qu'est-ce qui pouvait se passer sur les côtes. Et ce n'était pas que sur les côtes bretonnes, c'était sur les côtes... ça se passe sur les côtes d'autres pays dans le monde autrefois et encore aujourd'hui. Donc, c'est important que ça soit dit. Nous, on a juste décidé de changer la chanson parce qu'on trouvait ça plus rigolo de dire que la fille chantait, endormait les matelots et partait avec leur trésor. Parce qu'il y a une version irlandaise, une chanson irlandaise qui parle d'une femme comme ça. C'est une chanson qui s'appelle The Maid on the Shore, qui parle de cette femme qui est seule sur la côte et qu'un capitaine passe par là, il la prend sur son bateau. Et donc, il va la violer. Et en fait, elle chante, elle endort les autres matelots et en fait, elle se barre avec tout le trésor et son or, son argent et des gros diamants. Et donc, ça nous faisait juste marrer de faire un mélange de ces deux chansons et d'en faire autre chose. Mais je suis tout à fait capable de quand même chanter la vraie version. Bon, si je me rappelais des paroles maintenant, parce que vu que je les ai changées, je ne me rappelle pas toujours ce que je dois chanter. Voilà, c'est des fois je le fais parce que j'ai envie de raconter autre chose. C'est pas juste que j'ai envie d'oublier ce qui était dit avant. C'est pas tout à fait ça. Et dans les contes pour enfants, c'est pas encore clair dans ma tête qu'est-ce que j'ai encore, qu'est-ce que j'enlève et qu'est-ce que je n'enlève pas. C'est encore un travail que je suis en train de réfléchir. En fait, dans les contes, j'enlève tout ce qui touche pour les jeunes enfants. Des fois, je trouve que c'est un peu grivois, un peu... et c'est ça que j'enlève. Voilà, mais le sens de l'histoire, je ne l'enlève pas. Je vais enlever tout ce qui parle un peu de cul ou de choses comme ça, parce que ça n'a absolument pas sa place devant des maternelles. Voilà.
Bon, il y a un filtre qui est fait. Voilà. Donc, avant de parler de votre...
Ça se faisait.
Oui, et c'est ce qui est intéressant, c'est exactement ce que vous dites. Ça a un contexte historique très important et intéressant. Alors, avant de parler de votre histoire avec le chant, on va passer au morceau numéro 2 et puis on revient avec vous tout de suite.
Présence à Figeac 97.7.
Canadis Count, chanté par Anne-Cécile et Catel, donc par vous deux. Catel Cloirec, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs de Occitanie que vous nous parlez depuis la Bretagne, que la chanson que vous avez chantée est en breton et que vous allez nous parler ensuite aussi de votre chant. D'où est-ce que ça vient que vous avez chanté, mais surtout présentez-nous le morceau avant.
Donc le morceau qu'on vient d'entendre, c'est justement en anglais « Bonne d'Auru » dont je parlais juste avant. C'est l'exemple que j'ai utilisé sur une chanson qui a été transformée. Donc, c'était les Anglais au bonnet rouge qui venaient justement enlever les filles sur la côte. Et là, c'était cette version-là, c'est les filles du Pouldu. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà venus en vacances en Bretagne, mais le Pouldu, Cloarcarnoët en Sud-Finistère, c'est un endroit qui est très chouette à visiter. Donc apparemment, les Anglais trouvaient ça chouette aussi à l'époque.
Du coup, vous devez être au bord de la mer, j'imagine, parce que s'ils venaient chercher les filles, ça ne devait pas être trop éloigné.
Oui, le Pouldu, ça veut dire la mare noire. Donc voilà, on est Pouldu, ça veut dire. Ouais. Mais oui, ça se trouve au bord de la mer, en face de Guidel, juste à côté du Morbihan. Voilà, on est vraiment tout au bout du Finistère, dans l'autre sens, en allant vers le Morbihan.
D'accord. Et donc ça, vous l'avez transformé en danse aussi. Je sais, c'est la même chose pour la première chanson, parce que vous me dites que c'était des textes. Est-ce que ces textes étaient associés aux mêmes danses, ou est-ce que c'est vous qui les avez fait danser?
Ça, c'est ce texte-là, se chante sur de l'andro à la base, mais ça se chante aussi sur d'autres danses. Le texte, on peut le retrouver aussi sur des tancrey, sur des poudoufers, sur d'autres danses. Bon, le texte est changé, adapté un petit peu, mais voilà, c'est un texte qu'on retrouve assez souvent par chez nous, sur d'autres danses.
Ah oui, alors... J'ai juste entendu un texte que je crois que je connais, qui est le Poudoufer, c'est ça?
Et c'est une danse. Ouais, voilà, où on change de sens, tourner en arrière.
C'est ça, en tournée d'un arrière, c'est ça. Ah, je ne suis pas complètement ignare sur les danses bretonnes, du coup.
Et le Tom Cray, c'est la danse qu'on danse au milieu de la gavotte. C'est la danse qu'on utilise pour se reposer entre deux gavottes. Donc, on peut retrouver ce texte.
Exactement, donc il y a un ton simple,
voilà. Un bal et un ton double.
Le c'est Tom Cray, ouais, un Tom Cray, ouais. Ça veut dire le bout du milieu. Et après, il y a un ton double. D'accord. Voilà, ça, c'est la suite gavotte.
D'accord, oh, très bien. On en a un peu parlé avec justement avec Grégoire Pluré aussi structure des danses en Bretagne pour nos auditrices et auditeurs d'Occitanie et d'ailleurs. Alors, on me souffle à l'appareil qu'il reste 3 minutes avant de lancer le dernier morceau. J'aurais voulu que vous nous parliez un petit peu de votre vie avec votre chant parce que vous êtes arrivés, vous chantez là. Vous parlez de votre mère. Où est-ce que vous avez appris à chanter? Comment c'est venu? Comment D'accord. vous en êtes arrivé à chanter breton? Voilà.
Alors, c'est ma mère chantait. Ma mère est chanteuse. Donc, Brigitte Cloirec, elle s'appelle. Elle chante en breton, en gallois, en anglais, en français, en plein de langues. Et donc,
elle est
mon père...
Reconnue.
Pardon?
Elle est assez reconnue, je disais.
Oui,
elle est reconnue.
Oui. Et mon père était musicien et donc quand j'étais petite, moi mes souvenirs en tout cas petite, c'était vraiment de la musique à la maison et c'était toujours fait d'une façon très informelle. Je me rappelle, on avait une grande cuisine et j'ai des souvenirs petites qu'il y avait tout le temps des gens qui chantaient, qui dansaient, qui jouaient de la musique. Mes parents allaient souvent dans les bars aussi pour faire des sessions. Ils nous emmenaient aussi avec eux. J'allais en session avec mes parents, toute petite, pour chanter ou pour écouter ou juste pour être là parce qu'eux, ils étaient là. Et donc, j'étais un peu baignée là-dedans. Je me rappelle l'été, donc j'habitais au Pays de Galles à l'époque. Hein, je venais en Bretagne chez ma grand-mère à Concarneau. Je me rappelle que mes parents... devais m'emmener avec eux parce que j'ai plein de souvenirs de voir des gens danser, entendre du chant en breton, tout ça. On avait pas mal de cassettes aussi ou de vinyles à la maison que j'écoutais. Donc voilà, j'ai baigné dedans. C'était tout très informel parce que ma mère, elle travaillait à côté. Mon père était luthier. Et ma mère a travaillé à la fac. Donc c'était beaucoup l'été ou les week-ends ou les vacances que c'était la musique. Mais bon, c'était vraiment la... Moi, j'avais l'impression que c'était un peu la fête, quoi. C'était quelque chose de... Enfin, ça m'a toujours plu.
Et donc, j'ai grandi dans une session, en fait, presque.
Oui, j'ai l'impression, ouais. Et donc, c'était naturel, en fait. Quand les gens étaient chez nous, des fois, moi, je revenais même de soirée, même ado. Donc, j'ai commencé à chanter avec ma mère assez jeune. Mais même ado, quand je rentrais de boîte de nuit et qu'il y avait une fête chez moi... ma mère me disait viens, on vient chanter quelque chose avec moi, et du coup je m'asseyais avec elle, avec ses amis, et je chantais des chansons je l'ai toujours fait, et c'était ça faisait partie de la vie, et petit à petit c'est devenu un petit peu plus professionnel et un petit peu, mais tout en gardant ce truc de on chante ensemble. On chante aussi avec ma sœur. Donc, ma mère et ma sœur ensemble, on chante toutes les trois. Et après, à 24 ans, je me suis mis en couple avec un musicien. Donc, voilà, avec lui aussi, j'ai continué à faire de la musique. Et donc, j'ai l'impression, voilà, c'est le pilier un petit peu de la vie. Mes amis... sont souvent chanteurs ou musiciens, ou on monte des projets ensemble, ou on travaille ensemble, ou on va en session ensemble, parce que pour moi, il y a toujours ce truc de la musique, côté informel, de juste s'amuser avec la musique. C'est pour moi, c'est pas... la scène, c'est une chose, mais en fait, faire de la musique, manger ensemble, et à la fin du repas... finir en chantant soit quelques chansons pour les enfants qui sont là avant qu'ils aillent se coucher ou les autres ils sortent les clous et ça se transforme en session musique irlandaise ou tiens, il y a un piano dans le coin, il y en a un qui va se mettre au piano. Ça fait partie de la vie, quoi.
Je sais pas les mots de la fin, je les trouve très beaux. Merci beaucoup, Katel Corrette, depuis les Monts d'Arrée. C'était Mathilde Lacaze pour Musique Traditionnelle et nous avions Armand Gall aux manettes. Nous vous laissons avec le dernier morceau.